9h10 à Port-au-Prince, vous retrouvez tout de suite le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Sébastien Duhamel, bonjour à tous. À la une, cette victoire pour Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, affrontait un référendum de révocation demandé par des électeurs républicains mécontents. Il est donc maintenu à son poste, mais son État traverse des difficultés économiques et sociales majeures. Et oui, le rêve californien s'effrite. On en parle avec notre invité, l'historienne Emmanuelle Pérez-Tisserand. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry limoge un procureur qui le menaçait d'inculpation pour le meurtre du président Jovenel Moïse. L'enquête sur cet assassinat n'avance pas, les derniers développements ajoutent même à la confusion. Et puis, le journal de l'Outre-mer, ce sera avec Benoît Ferrand de La Première. Benoît, vous nous parlerez de la Guyane. Dans le département, l'obligation vaccinale pour les soignants va devoir s'adapter à la situation sanitaire.
Eh oui, car comme on dit, il y a la loi et puis l'application de la loi, et c'est là que le bât va sans doute blesser, avec par exemple 46% seulement du personnel vacciné au centre hospitalier de Cayenne.
À tout à l'heure, Benoît. Il était sur la sellette, Gavin Newsom. Il reste finalement à son poste de gouverneur de Californie. Le démocrate faisait face à un recall, un référendum de révocation lancé par des électeurs mécontents. Et finalement, Gavin Newsom s'en sort grâce notamment à la mobilisation des électeurs démocrates. Mais son état traverse tout de même des difficultés majeures. On en parle aujourd'hui avec notre invité, Emmanuelle Pérez-Tisserand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de la Californie. D'abord, un mot rapidement sur ce référendum. C'est un scrutin un peu particulier aux États-Unis.
Oui, alors on l'en trouve dans quelques-uns des États. Ça date de l'époque qu'on appelle progressiste, issue du mouvement populiste au début du XXe siècle. L'idée, c'était que le peuple ait à dire sur l'élection et même le choix des candidats aux élections. Et donc, on pouvait organiser cette procédure de révocation en réunissant suffisamment de signatures pour mettre au scrutin et ensuite suffisamment de votes.
Revenons à présent sur ce qui a conduit donc ces électeurs à demander ce scrutin. Il s'agit surtout de républicains. Ils reprochent surtout à Gavin Newsom donc plusieurs choses, et notamment sa position plutôt favorable envers les sans-papiers.
C'était une des premières reproches qui a été adressée et qui a même lancé la procédure de recall, même si c'était dans ce contexte politique très polarisé aux États-Unis et puis dans cet espoir des républicains d'essayer de reconquérir cet État désespérément bleu, selon eux, démocrate, qu'est la Californie. Et donc, on a extrait certaines de ses citations, certaines de ses prises de parole, où il essayait de dire aux personnes qui étaient en situation irrégulière en Californie qu'ils avaient l'autorisation de ne pas ouvrir à la police si la police venait chez eux, etc. Et donc, il a été perçu comme quelqu'un de protecteur envers les sans-papiers, et donc comme quelqu'un qui encourageait une immigration sans limite. Et donc, c'était une des premières étapes. Et c'est vrai que la Californie est très concernée et très divisée sur cette question de l'immigration venue d'Amérique centrale ou du Mexique.
Autre point de friction, la crise de l'immobilier. Quelques chiffres, 110 000 SDF dans l'État en tout, une hausse de 40% en 10 ans. Et l'immobilier de moins en moins abordable, c'est l'un aussi des autres reproches de ce scrutin.
Tout à fait, parce qu'en plus, Newsom a quelque part prêté le bâton pour se faire battre, parce qu'il en a fait un de ses éléments de campagne quand il était maire de San Francisco, où le problème des SDF est très important. Et ensuite, même quand il a été élu gouverneur, et donc il a promis de résoudre ce problème de l'immobilier, etc. Et effectivement, il y a eu la crise du Covid, et aussi il y a un certain nombre de choses qui sont pas entre ses mains. Mais c'est vrai que ceux qui ont poussé la procédure de recall ont fait appel à ce problème qui est en fait un problème quotidien pour beaucoup de Californiens, que ce soit à Los Angeles, à San Diego ou à San Francisco. On a ce gros problème des personnes qui n'ont pas de logement, qui ne peuvent pas se payer des logements parce que l'État est très cher.
Et même quand ils gagnent un salaire même convenable, en fait.
Oui, voilà, c'est très difficile de se loger, à la fois parce qu'il n'y a pas assez de construction. Certains attaquent les régulations environnementales, on reviendra peut-être sur ce sujet. D'autres, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont au niveau local. Et comme en France, par exemple, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de communautés assez aisées qui refusent de construire l'équivalent des HLM, etc. Donc, c'est un problème très complexe, mais qui est pratique dans ce genre d'élection, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont mécontents de la situation, soit parce qu'ils ne peuvent pas se loger, soit parce qu'ils rencontrent des SDF qu'ils estiment dangereux dans la rue. Donc, c'est un problème très complexe, mais qui est un élément de discours politique très pratique pour mobiliser, en fait.
Et en revanche, Emmanuel Perez-Tistron, la gestion du coronavirus du gouverneur lui a plutôt permis peut-être de gagner des voix pour ce scrutin.
Alors oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que effectivement, en l'occurrence, il a suivi les préceptes des scientifiques, il a pris des mesures très précoces par rapport au président Trump à l'époque. En revanche, et donc probablement, il a permis à la Californie de mieux passer cette crise et d'avoir un peu moins de morts, même s'il y a énormément de problèmes sur cette question. En revanche, c'est vrai que ça a été un élément très critiqué et qui a permis, là encore, de mobiliser énormément des opposants par rapport à cette procédure de révocation, de recall, parce que beaucoup ont été inquiets des fermetures d'écoles par rapport à l'économie, la clôture de certains commerces et services, que ça a été vu comme une entrave aux libertés, et donc la Californie a été, enfin le Gavin Newsom a été vu comme un endroit qui allait à sa perte avec ces mesures-là. Donc disons que c'est paradoxal. À la fois, oui, probablement il a pris des mesures adéquates et précoces, et en même temps ça a été aussi mal vécu par un certain nombre de républicains ou d'opposants à ces mesures-là.
Et donc les républicains ont mal accueilli donc certaines positions sur le Covid, mais aussi sur son bilan environnemental, je crois.
Oui, alors en fait, Newsom à plusieurs reprises, s'est vraiment opposé à Trump au temps où il était président. Trump, dès qu'il a été élu, s'est distancé des accords de Paris, a dit qu'il croyait pas au dérèglement climatique en disant que c'était un hoax, une invention des Chinois pour faire péricliter l'économie états-unienne. Newsom, au contraire, a dit si ça existe, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et comme en plus son État est la première économie, est une économie très puissante, elle peut donner, ses régulations, un effet très puissant sur le marché états-unien au sens large. Et donc, toutes ces régulations-là, elles déplaisent à ceux qui, du point de vue économique ou parce qu'ils ne veulent pas croire en ce désagrément qu'est le dérèglement climatique, font qu'il a été critiqué sur cette question-là, effectivement. Donc, là encore, ça répond à ça. C'est-à-dire que c'est la même chose que pour le Covid, c'est-à-dire qu'il suit un petit peu les avis scientifiques, mais ce n'est pas du goût de ceux qui voudraient faire comme si ça n'existait pas.
Et donc dans cette élection, il y a aussi eu beaucoup d'électeurs ou même certains médias conservateurs qui ont crié, qui ont prévenu qu'il y aurait des fraudes. Il y a un peu comme un air de déjà-vu avec la présidentielle de 2020 et les accusations de Donald Trump. Est-ce que cette méthode trumpiste, si on peut dire, est-ce qu'il faut s'y habituer? Est-ce qu'on peut s'attendre à entendre encore ces arguments de fraude de plus en plus souvent?
Oui, j'ai l'impression que, en tout cas, ce qui a été testé dans les années précédentes, on a vu que ça pouvait fonctionner pour mobiliser des électeurs, les pousser à l'action, les pousser aux urnes. Et donc, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à voir dans ce climat de polarisation extrême. Donc, malheureusement, oui, probablement d'ici les mi-termes et ensuite les prochaines élections présidentielles, je pense que cette campagne qui n'avait pas un enjeu très fort, parce que quand même, vu que la Californie est très puissamment démocrate, alors il a fallu quand même lever de l'argent pour soutenir Newsom, mais bon, a priori, il y avait peu de chances que ça réussisse. C'est facile de dire ça après. Mais en tout cas, c'est un moment important pour de la poursuite de la mobilisation des républicains autour de ces thématiques-là.
Et dernière question, Emmanuel Perez-Tistron. La Californie, qui avait attiré sans discontinuer des Américains pour son soleil, ses studios de cinéma légendaires, ses start-up de la Silicon Valley, elle voit sa population baisser. C'est du jamais vu. Est-ce que, selon vous, c'est la fin du rêve californien?
Alors, je pense que oui, c'est pas forcément la fin. Certains essayent d'entretenir ce rêve, et bon, Newsom en fait partie en disant la Californie fait rêver, la Californie est leader, etc. Mais ce qu'on voit là, c'est que le modèle actuel de Californie, il est profondément inégalitaire quand même, malgré les démocrates au pouvoir. Et donc, on voit que le rêve californien, il est accessible aux plus riches, aux plus aisés, mais que par contre, la plupart des Californiens sont confrontés au manque de ressources économiques, environnementales, et que c'est vraiment ça le défi pour les années à venir.
Merci Emmanuel Perez-Tisserand, historienne et spécialiste de la Californie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI.
Merci à vous.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marianne, bonjour à tous.
Et la victoire du gouverneur californien au référendum qui visait sa révocation est aussi à la une de votre revue de presse aujourd'hui.
Oui, la Californie pousse un ouf de soulagement, titre le Los Angeles Times. Ce résultat est le meilleur possible pour notre État, estime le journal. En pleine pandémie, cela aurait été une folie de remplacer un dirigeant sérieux comme Gavin Newsom par l'un des candidats inexpérimentés proposés par les républicains, estime l'éditorialiste. Si les conservateurs veulent mettre fin au règne démocrate en Californie, ils doivent proposer un projet capable de fédérer les électeurs au lieu de jouer avec notre système de démocratie directe, écrit le Los Angeles Times.
Et un point de vue que ne partage pas le journal local de Sacramento.
Absolument, Gavin Newsom a certes survécu au référendum, mais les problèmes auxquels il est confronté n'ont pas disparu pour autant, écrit en effet le Sacramento Bee, qui titre « Bienvenue dans une Californie en crise, des feux de forêt catastrophiques à l'augmentation mirobolante des prix des logements et de l'électricité. Les Californiens attendent maintenant plus que de belles paroles, ils veulent des actions concrètes. »
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et direction Haïti, à présent, plus de deux mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays reste plongé dans l'incertitude quant aux commanditaires et aux motifs de cette attaque. À cette incertitude s'est ajoutée une grande confusion. Hier à Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement, et qui est l'équivalent du procureur, a demandé à ce que le Premier ministre soit auditionné, car il aurait été en contact téléphonique avec l'une des personnes recherchées pour le meurtre de Jovenel Moïse, et ce, quelques heures seulement après les faits. À Port-au-Prince, correspondance d'Amélie Baron.
Demander d'inculper Ariel Henry et l'interdire de sortir du territoire national, Maître Bedford Claude n'en avait nullement le droit car le dossier sur l'assassinat du président est entre les mains du juge d'instruction. L'avocat Samuel Madistin déplore une politisation de la justice par les deux clans qui s'affrontent au sein du gouvernement.
Les actes posés par le commissaire du gouvernement contre le Premier ministre n'ont rien à voir avec le droit et la justice. Ce sont des actes politiques qui entrent dans la lutte pour le contrôle du pouvoir politique entre les deux branches du PHTK.
L'avocat de la Fondation de défense des droits humains, Jacques Cléré, s'inquiète de cette dérive sur le devenir de l'enquête.
Il y a une volonté de la part des partisans du président d'exploiter au maximum le cadavre du président à des fins politiques. Ceci risque d'entraver la bonne marche de l'enquête, la bonne marche de l'instruction. Je crains que ça n'entrave l'issue du procès.
En fin de journée, le Premier ministre a finalement révoqué le procureur qui réclamait son inculpation. Face à ce bras de fer entre la primature et le ministère de la Justice, le mystère sur les commanditaires et les motifs du meurtre du président reste entier. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
On vous retrouve, Stéphanie, pour la suite de votre revue de presse. Cette confusion dans l'enquête sur l'assassinat du président et la bataille en cours pour décider de la forme que doit prendre la transition politique suscite aujourd'hui de vives inquiétudes dans la presse haïtienne.
Oui, le National parle d'un cocktail de crise aux conséquences les plus imprévisibles et irréparables et appelle les politiques à arrêter la destruction systématique des institutions, une véritable machine de déshumanisation selon le quotidien. De son côté, Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, signe un éditorial très sombre. Plus de deux mois après l'assassinat du chef de l'État, le pays prend connaissance chaque jour d'une nouvelle défaite du droit et des institutions parce que tout le règne de Jovenel Moïse n'a été que prétexte pour défaire les instruments qui auraient pu protéger le pays et assurer une transmission régulée du pouvoir, constate amèrement Le Nouvelliste. Nous sommes en train d'assister à la liquéfaction et à la liquidation des oripeaux du rêve post-dictature, sans pouvoir deviner ce qui nous attend, estime encore Franz Duval avant de conclure. Nous sommes à la veille d'un reset, d'un nouveau départ. Pour le meilleur ou pour le pire, personne ne le sait vraiment.
Au Brésil à présent, le Sénat a rejeté hier soir un décret du président Bolsonaro sur la modération des réseaux sociaux.
Jair Bolsonaro voulait combattre la suppression arbitraire, selon lui, des comptes et des profils par les grandes plateformes type Facebook, Twitter et Instagram. Les détracteurs du président y ont vu une tentative d'entraver le combat contre les fake news. Le Sénat s'y est donc opposé. Mais à en croire la Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro a tout de même atteint son objectif, à savoir passer un message à sa base électorale et tant pis si ses propositions ne se concrétisent pas.
Et selon les informations d'Oestado, Jair Bolsonaro prépare déjà une nouvelle attaque contre la démocratie brésilienne.
Cette fois, le chef de l'État veut changer la loi antiterroriste. Cette loi existe depuis 5 ans et confie la lutte antiterroriste à la police fédérale brésilienne. Jair Bolsonaro, lui, prévoit la création d'une nouvelle unité, l'ANC, l'Autorité Nationale de Lutte contre le Terrorisme. Cette autorité sera dirigée par un policier et un militaire, tous deux directement subordonnés au président de la République. Mais ce n'est pas tout, alerte le journal. Cette nouvelle entité aurait permet aussi un accès illimité aux informations sur tout citoyen ou entreprise, ainsi que l'autorisation explicite de tuer. Dans les prochains jours, ce projet de loi doit passer devant une commission spéciale du Parlement brésilien avant d'être débattu dans les deux chambres.
Et puis pour terminer, Stéphanie, une robe blanche fait le buzz.
Oui, celle portée lundi soir par Alexandria Ocasio-Cortez figure, comme vous le savez, de l'aile gauche du Parti démocrate au gala du Met, le célèbre événement de charité du Metropolitan Museum of Art à New York. Ticket d'entrée de cet événement réservé aux personnalités fortunées, la modique somme de 35 000 $. L'élu à la Chambre des représentants était pour sa part invité, précise le Washington Post, et a choisi de porter une robe de soirée blanche avec des lettres rouges sang dans le dos, indiquant « Tax the rich », traduction « Taxer les riches ». Quelques heures auparavant, les démocrates à la Chambre avaient présenté un projet de réforme fiscale qui comprend justement des hausses d'impôts pour les Américains les plus fortunés et les grandes entreprises. Sur les réseaux sociaux, le camp conservateur a immédiatement dénoncé une forme d'hypocrisie, non seulement pour avoir porté une robe de créateur, mais aussi pour avoir accepté d'assister à cet événement, résume Forbes. Les critiques auxquelles la styliste Aurora James, qui a créé cette robe et l'a prêtée à la démocrate, a répondu hier soir sur la chaîne CNN. Elle explique que plus ces idées sont véhiculées dans la culture populaire, plus elles seront adoptées par les politiques. Aurora James insiste aussi sur le fait que la mode est souvent vue comme quelque chose de frivole, mais que sa marque et celle d'autres créateurs afro-américains utilisent comme un outil de communication pour demander davantage d'inclusion.
Et merci Stéphanie Schuller, c'était la revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
En Guyane, l'obligation vaccinale pour les soignants va selon toute vraisemblance devoir s'adapter à la situation sanitaire du département. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marion. Et oui, car comme on dit, il y a certes la loi et puis il y a l'application de la loi sur le terrain et c'est là que le bât va très probablement blesser avec, par exemple, 46% seulement du personnel vacciné au centre hospitalier de Cayenne, soit 1328 sur les 2895 agents de l'établissement. Nickerson Perdus.
Pour sortir de l'impasse et éviter une crise majeure, la direction tente de rassurer quant à l'application de la mesure. Christophe Robert, le patron du CHC.
Le monde ne s'arrête pas demain, c'est-à-dire qu'on va aller vers une application progressive. L'idée étant bien sûr de ne pas créer plus de stress et de traumatisme que les agents en vivent déjà depuis un petit moment, depuis 18 mois, depuis que cette crise a démarré.
Pas d'application stricto sensu de la mesure, une hypothèse qui était d'ailleurs peu probable, car l'hôpital risquait la rupture de la continuité de soins. Or, l'article 47 du Code de la Santé publique précise, je cite, que quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Les plus réticents à la vaccination sont les ASH, les agents des services hospitaliers chargés d'assurer la propreté et l'entretien des locaux. On atteint à peine la barre des 20%. C'est à peine mieux chez les aides-soignants, 23%. En revanche, les infirmiers et infirmières sont plus nombreux à avoir pris le vaccin, 49%.
Autre illustration de l'embarras, entre guillemets, des autorités sur ce sujet délicat, l'ARS, la préfecture de la Guadeloupe et la préfecture de Saint-Martin ont annoncé un assouplissement de l'obligation vaccinale dans les deux territoires. L'obligation sera modulée progressivement, dit-on, en fonction de la situation hospitalière. On saura aujourd'hui, autre sujet, si la Martinique rejoint le réseau mondial des réserves de biosphère. L'UNESCO doit en effet se prononcer ce mercredi. Christine Cupit.
Le label réserve de biosphère permet au territoire d'accéder aux financements internationaux, notamment dans le cadre de la coopération. C'est une association qui a pris l'initiative de présenter la candidature de la Martinique à l'UNESCO. L'association Martinique Réserve de Biosphère, créée en 2017. 2000 personnes ont participé à l'élaboration du projet. Les communes, la population, le monde économique et associatif, les organismes de recherche, l'université ou encore les établissements publics. Les premières réserves de biosphère remontent aux années 70. 124 pays dans le monde possèdent ce titre. Si la candidature de la Martinique est approuvée par l'UNESCO, notre île sera alors une réserve, tout comme la Guadeloupe et la Polynésie.
Bon après-midi Marion, à demain.
Merci Benoît Ferrand, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Demain à ma place, vous retrouverez Mickaël Ponge. Merci d'être avec nous sur la Radio du Monde. Autour